France Inter, le 18-20.
Il est donc venu le temps des conclusions. On va enfin savoir à quoi vont servir les centaines, les milliers de contributions qui ont alimenté la conversation. Depuis des semaines, on saura à quoi ressemble la réponse du gouvernement à tout ce qui a été posé sur la table. On verra si on parle de réponse politique ou de réponse pratique, si tout cela était bien sincère ou juste un leurre pour tenter de s'extirper des filets tendus par les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on en fait de ces conclusions? Qui les tire et pour dire quoi? Est-ce qu'on en sort par un référendum ou par une autre voie? Sinon, quelle est la piste d'atterrissage? Que deviennent également les gilets jaunes dans cette histoire? Leur nombre dans la rue certes diminue, mais que devient aussi ce mouvement à la fermeture de ce grand débat? Est-ce que l'un va forcément avec l'autre ou pas du tout? C'est de cela qu'on débat ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Patrice, c'est vous le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Bonsoir Ingrid, bonsoir France Inter, bonsoir aux invités. Je voulais d'abord dire que pour moi, Ingrid n'est pas une ex-candidate aux élections européennes.
Ah ben.
Pour moi, Ingrid est un futur. Alors, il y a un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je suis persuadé que les objectifs de plusieurs groupes de gilets jaunes sont communs. Redonner une place aux citoyens, assurer une meilleure répartition des richesses en plaçant l'économie au service de l'humain, tout en préservant notre planète. Mettre en place une vraie transition économique, écologique et citoyenne. Alors, être présent ou pas aux élections européennes, puis municipales, puis etc., n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de garder cet objectif en tête. Donc, même si on n'est que 80 000 sur les ronds-points et dans les manifs, on est des millions à espérer que cela change. Donc, vous ne devez pas nous décevoir.
Patrice,
ne pas reproduire les querelles auxquelles on assiste depuis des décennies dans les partis traditionnels.
Attendez, pardon, Patrice, vous voulez pas, vous ne voulez pas, qui ne doit pas vous décevoir? Vous parlez des politiques ou du reste des autres gilets jaunes?
Non, je parle de Ingrid.
D'accord.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se parler, il faut se rencontrer avec l'envie de réussir, non pas pour soi, mais pour l'autre, pour les autres. Donc, est-ce que Ingrid pense fédérer avec d'autres mouvements de gilets jaunes qui ont un peu la même posture que la sienne, une posture de sage, une posture de gens qui rejettent toute forme de violence, toute forme de discrimination? Je pense à François Boulot, je pense à d'autres, je pense à des mouvements aussi qui, depuis quelques années, ont émergé dans la thématique de la transition économique, écologique et citoyenne, comme Alternatiba, comme les Colibris. Voilà, donc j'aimerais entendre Ingrid sur ce sujet. Et Ingrid, on ne lâche rien.
Merci beaucoup Patrice pour cette entrée en matière. Elle vous a entendu Ingrid, comme vous dites, Ingrid Levavasseur qui est avec nous. Bonsoir à vous. Vous avez été, vous êtes toujours l'un des visages des Gilets jaunes. Vous avez été brièvement, alors j'allais dire ex-tête de liste, mais je vais pas le dire parce que Patrice ne veut pas que je le dise. Mais vous avez été brièvement en tête de liste aux Européennes. Vous nous direz comment vous prenez votre place aujourd'hui. C'était la question que vous posez Patrice. Et en face de vous, il y a Yves Saint-Omer. Bonsoir Monsieur Saint-Omer.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences politiques à Paris. Vous êtes surtout l'un des garants du grand débat national, en l'occurrence là à Paris. Vous aussi, vous allez nous expliquer comment les choses avancent. Ingrid Levavasseur, puisque c'est à vous que Patrice parle directement, en fait, il cherche une suite dans ce que j'entends, Patrice. Il cherche une suite, pas tout seul, effectivement, autour d'un rond-point. Il cherche à fédérer quelque chose. Est-ce qu'on peut lui donner une forme de réponse ou pas du tout?
Bonsoir déjà à tous. Merci Patrice pour ce message bienveillant et effectivement, j'aimerais tellement fédérer toutes les bonnes volontés et faire en sorte qu'on puisse trouver une solution. Pour ma part, j'ai tenté, c'est pas faute d'avoir essayé, tenter de rallier toutes les initiatives également pour une liste aux européennes et faire ensemble. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais imaginé, mais c'est pas grave, c'est pas forcément un échec, c'est juste repousser, reculer pour mieux sauter, dit-on. Et je pense qu'il faut pas baisser les bras, d'autres le feront. Pour ma part, oui, j'appelle toutes les bonnes volontés à se réunir. J'ai créé un groupe, notamment plus que jamais sur Facebook. Il y a une belle dynamique qui se crée. Et tous ceux qui ont envie de faire évoluer les choses sont les bienvenus.
Ça veut dire que la réponse est maintenant et désormais est associative plus que politique. Ça veut dire, est-ce qu'on a plus de poids finalement dans ce côté associatif qu'en essayant d'être dans la cour des autres? C'est ça l'idée?
L'idée, c'est surtout de fédérer et de voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour travailler ensemble, associatif ou pas. Le but étant de faire évoluer les choses, être force de proposition sur tous les terrains possibles et inimaginables.
Est-ce que ça veut dire, je passerai la parole à Yves Saint-Omer dans un instant, est-ce que ça veut dire que les conclusions, en quoi elles vous intéressent, vous, les conclusions des grands débats? Est-ce qu'elles vous intéressent vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez sur une base sur laquelle vous allez pouvoir travailler ou pas?
Nous, on recueille déjà beaucoup de demandes. Il y a énormément de personnes qui se tournent vers moi, notamment comme Patrice, et qui m'envoient des demandes très claires, avec des propositions, des sujets divers et variés. Évidemment, on est ceux qui avons fait en sorte d'amener ces débats. Alors, ceux qui veulent y croire, y croient. Ceux qui n'ont pas envie d'y croire, n'y croient pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à 3 débats différents. Et tous les 3 étaient enrichissants. Maintenant, trouver toutes les solutions à toutes les misères du monde, c'est un peu utopique. En espérant maintenant qu'il y ait des solutions apportées. Et bien sûr, on espère quand même qu'il y ait des solutions qui puissent être apportées.
Mais ça veut dire que vous allez effectivement attendre ces conclusions-là et essayer de peser sur ces conclusions-là. Est-ce qu'elles servent de base de travail à ce que vous dites, le nouveau groupe que vous créez, ou est-ce donc elles servent de base, en fait, vous appuyez là-dessus, votre élan, c'est là.
On va être aussi force de proposition en amont de ce qui va se passer après le grand débat.
Yves Saint-Omer, ce que je trouve très intéressant dans ce que nous disait Patrice et dans ce que dit Ingrid Levavasseur aussi, c'est que on a du mal à sortir de la phase des propositions, en fait. Et pourtant, ce qui se passe là, dans une semaine, c'est la fin de la phase des propositions, c'est la phase d'après. C'est compliqué de faire le clap de fin, vraisemblablement, non?
C'est d'autant plus compliqué qu'on ne sait pas comment il va être fait. C'est-à-dire que après un mouvement, celui des Gilets jaunes qui a secoué la France, c'est tout de même historiquement une des mobilisations populaires les plus importantes que l'on ait vécues, qui a eu un soutien dans l'opinion publique très fort. Le président, d'une certaine manière, a changé de route. Il avait, pendant un an, un peu plus, fait un gouvernement qui n'était pas vraiment un gouvernement de dialogue. Il s'est engagé dans le grand débat. Des centaines de milliers de citoyens ont répondu à l'appel, sans doute par présentatif de ce qu'est la France. Il y a des trous, probablement.
C'est intéressant d'ailleurs de voir qui a participé à quoi. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont très rapidement, mais il y a eu beaucoup dans les régions les plus riches, on a beaucoup participé par Internet. Dans les régions les plus rurales, on a participé physiquement. Ça dit aussi beaucoup de choses, ça.
Oui, on attend des chiffres un peu fiables à l'échelle de la France, mais voilà. Simplement, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et là, c'est la grande incertitude, le grand point d'interrogation, et beaucoup de personnes qui sont engagées dans ces débats, soit en tant que simples citoyens, soit en tant que maire, que responsable d'une institution, se posent la question. Tout le monde se pose la question. Ce qu'on appelait la démocratie de proximité en France il y a quelques années, c'était le fait d'ouvrir un débat, et puis après, les responsables politiques tranchaient sans vraiment suivre une règle particulière. De façon arbitraire, ça voulait pas dire forcément de mauvaise foi, mais de façon sans avoir une méthode pour finir. Là, la question est d'autant plus difficile qu'il va y avoir des échéances électorales, et puis que la France a changé après un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Si les réponses ne sont pas à la hauteur des demandes qui ont été faites, on risque d'avoir des retours du bâton extrêmement difficiles.
Quand on est un garant du grand débat, Yves Saint-Omer, est-ce qu'on est aussi, d'une certaine façon, on a aussi envie d'être un garant des réponses, ou pas? Est-ce qu'on viendra aussi vous chercher là-dessus,
compris? D'une part, le rôle de garant n'est absolument pas de donner des réponses et de s'engager. Et puis, je me suis engagé simplement à des niveaux qui étaient des niveaux locaux, comme à Paris, ou sectoriels, pas au niveau national, car justement au niveau national, on a tout de même tellement d'incertitudes. Est-ce qu'il va y avoir à la fin manipulation ou prise au sérieux de la chose? Est-ce qu'on va simplement se contenter d'intégrer à la marge certaines choses secondaires ou pas? Est-ce qu'on va jouer un jeu où, au bout du compte, ce sont les citoyens qui pourront trancher directement sur une série de questions? Ou est-ce que le gouvernement va prétendre reprendre la main de façon souveraine avec le Parlement? personne ne le sait aujourd'hui.
Ingrid Levavasseur, une sortie référendaire, comme on dit, c'est-à-dire un couplage référendum élection le 26 mai. Est-ce que ça vous paraît intéressant ou il faut découpler, il faut en sortir différemment? Est-ce que vous avez, vous, la notion de la mesure de la déception? J'imagine que vous la voyez comme Yves Saint-Omer, si jamais il y a déception. La sortie pour vous passe par où? Est-ce qu'elle passe par une sortie référendaire ou pas?
Je pense qu'il y aura déception. Je pense que automatiquement il y aura déception. Il y a beaucoup trop d'attentes et de revendications pour que tout le monde trouve satisfaction dans l'issue. D'ailleurs, j'ai même envie d'aller plus loin. Je pense que déception fait partie du programme politique d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il va y avoir des déceptions, c'est sûr. Maintenant, le référendum, je pense pas qu'il faille attendre le 26 mai. Ça, c'est en toute logique, il faut intervenir avant. Avant ça. Parce que c'est ce que je disais juste avant l'émission, c'est que pour l'instant, le 17 novembre, tout est parti spontanément, il n'y avait pas d'organisation, tout le monde est allé dans la rue. Mais effectivement, le retour de bâton est possible dans le sens où maintenant tout s'organise. Il y a des assemblées générales, il y a une organisation, voilà, il y a encore du temps pour que ça s'organise.
Tout s'organise, ouais, je ne sais pas si tout s'organise réellement. En tout cas, il y a effectivement eu des débats et des choses comme ça, mais au sein des Gilets jaunes, tout ne s'organise pas, au contraire.
Oui, mais il y a des endroits où ça s'organise plutôt bien. Et je pense que si grosse déception il y a et que vraiment il n'y a aucune réponse et que tout est déception, c'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas forcément de proposition et que...
Et pour vous, par exemple, Madame Levavasseur, ça veut dire quoi, déception? Par exemple, qu'est-ce que vous voulez absolument voir inscrit sans cela? Vous considérerez vraiment que tout ça était un leurre?
Je pense que s'il n'y a pas de réponse, notamment à l'augmentation des salaires... là, je pense qu'il y aura problématique. Beaucoup comptent sur le RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Moi, je reste très sceptique, au même titre que la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour moi, ça se fera pas et il faut être de bonne foi et être lucide. Je pense qu'il faut vraiment que le président intervienne aussi sur la baisse des TVA, sur les produits de première nécessité, la gratuité, notamment des protections hygiéniques féminines. Enfin, il y a pas mal de revendications qui ont été demandées, la suppression de la hausse de la CSG. Voilà, je pense qu'aussi en matière de d'AAH, l'allocation pour adultes handicapés. Pour les personnes en situation de handicap, il faut cesser de prendre en considération les revenus du conjoint. Voilà, je pars du principe que c'est à titre individuel une ressource et que ces personnes doivent avoir une allocation à titre personnel. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération parce que c'est une précarité terrible que les personnes en situation de handicap subissent, au même titre que les personnes en situation de retraite très très basse. Et voilà, je pense que toutes les premières revendications sont là.
Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, Georges, on vous écoute.
Oui, d'abord je voudrais remercier, saluer tous mes amis Gilets jaunes de Vannes et Doré pour leur courage, leur détermination. Et tous les jours, on se rend compte et on organise des ateliers où on discute sur le RIC. Voilà, donc pour moi les demandes des Gilets jaunes sont fort simples, c'est la justice sociale et le maintien des services publics de qualité. On est donc contre le système prôné par M. Macron, un système libéral qui privatise des pans entiers de l'économie au seul profit d'intérêts privés. Donc nos demandes, elles sont, je pense, connues, comme l'a dit Ingrid, l'indexation des retraites, l'ISF, c'est des choses toutes simples qu'on voudrait voir mettre en place rapidement. Et Roosevelt, quand il a pris le pouvoir, suite à la crise de 29, tous les mois, il avait une loi pour combattre la pauvreté. Donc on demande au gouvernement qu'il fasse la même chose, qu'il ait le courage. Donc pour moi, personnellement, j'accuse Emmanuel Macron d'être sourd aux attentes sociales des Françaises et des Françaises les plus démunies, en menant toujours une politique libérale liée à la finance et au grand capital. Voilà, donc je pense qu'on va continuer le combat et à Vannes, on va essayer de sortir une gazette où on va expliquer nos combats et ce qu'on attend pour l'avenir.
Mais justement,
on ne renonce pas.
Pardon Georges, ce que j'aimerais comprendre, c'est du coup, est-ce que ça veut dire que les résultats et les conclusions du grand débat, au fond, ne vous intéressent pas parce qu'il n'y aura jamais ce que vous réclamez en totalité? Ou est-ce que quand même, si on entend des choses sur un certain nombre d'exemples que vous avez donnés, sur la CSG, sur des choses comme ça, est-ce que vous discutez, vous vous dites bon, on avance. Est-ce qu'on est un peu dans tout ou rien, en fait, Georges ?
Je vais vous donner deux exemples.
Allez-y.
J'étais à deux grands débats. Un à Auray et un à Vannes. À Auray, ça s'est bien passé, on nous a écoutés. À Vannes, on n'a pas voulu qu'on mette nos gilets jaunes et on nous a un peu mis à la au bout. On nous a pas accepté vraiment, quoi. On était un peu hors jeu pour les gens qui animaient le débat. Donc, ça dépend quelles sont les personnes qui vont prendre en main nos attentes et pouvoir les mettre en place, quoi. Donc la fonction fait l'homme et l'homme fait la fonction. Donc est-ce que Emmanuel Macron va être capable aujourd'hui d'être le président des gens les plus démunis et arrêter cette politique qui abîme les services publics.
Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, Georges. Yves Saint-Omer, c'est là qu'on voit toutes l'énorme difficulté, parce qu'on entend Georges qui parle au sens très large de justice sociale, de maintien des services publics, et puis après, il y a les choses qui peuvent être très concrètes, l'allocation adulte handicapé, la CSG. Comment est-ce qu'on fait la part des choses entre des grandes demandes très globales qui parlent quasiment d'un changement de système et des petites demandes, mais qui sont importantes chacun, évidemment, dans leur couloir. Comment on peut imaginer cette synthèse-là ?
Bien, le problème, c'est que, pour l'instant, on n'a pas pensé à une vraie synthèse. C'est-à-dire que les multiples contributions qui vont sortir du grand débat, il n'y a rien qui permet, à l'heure actuelle, dans le dispositif qui a été pensé ou qui n'a pas été pensé, de monter en généralité, de voir les plus importantes, de faire des synthèses partielles entre des propositions qui sont assez proches les unes des autres pour arriver ensuite à une hiérarchisation des principales propositions.
C'est-à-dire que là, on prend tout d'un seul bloc, c'est donc ingérable. En gros, c'est ce que je lis dans ce que vous nous dites.
C'est assez ingérable. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Soit on adopte la méthode traditionnelle en disant, ben voilà, une fois qu'il y a eu le débat, le gouvernement élu reprend la main et puis va proposer d'intégrer ceci, ceci, cela, il ne prendra pas en compte le reste. Soit on dit, eh bien voilà, il y a des acteurs qui sont différents, qui peuvent faire des propositions, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a des mesures qui sont des mesures qui peuvent passer par le Parlement, disons, de façon normale. Et puis, on peut par exemple, il va y avoir des assemblées citoyennes tirées au sort dans les régions pour faire un débat au niveau des grandes régions, cette semaine et la semaine suivante. On pourrait imaginer la même chose au niveau national, avoir une assemblée citoyenne au niveau national qui dirait, voilà, nous allons décider de 5 thèmes les plus importants qui devront être proposés à tous les Français. Et puis on pourrait imaginer quelque chose comme ce qu'avait été le Grenelle de l'environnement autour du Conseil économique, social et écologique qui ferait la même chose. Et je pense qu'après, il faudrait donner aux citoyens la possibilité de trancher. Quand on est en Suisse, on vote 3 fois par an et on vote sur, à chacune de ces fois où on vote, c'est prévu à l'avance, 5, 6, 7, 10, 12 sujets qui peuvent être fédéraux, du canton ou locaux. Ce ne serait pas du tout inconcevable qu'on dise, voilà, les Français seront amenés à se prononcer sur 12 des questions les plus importantes. Et puis pour les autres, eh bien, ça fait partie du travail, disons, plus quotidien du gouvernement et du Parlement d'intégrer les demandes qui ont émergé fortement.
Ingrid Levasseur, est-ce que vous savez comment, à quoi vont ressembler les fameuses 18 conférences citoyennes à venir ? C'est-à-dire, il y en a les 15 et 16 mars, les 22, 23 mars. Donc, on a l'impression que c'est une espèce de petit débat dans le grand débat pour essayer de faire le tri de ce qui a été dit dans le grand débat. Est-ce qu'on sait exactement comment tout ça va s'organiser ou pas ?
Aucune idée, je n'ai pas entendu parler.
Est-ce que vous avez entendu parler de ça, Yves Saint-Omer ?
Oui,
les fameuses conférences citoyennes, ça s'organise comment ?
Alors, ça s'organise. Les gens qui vont les organiser techniquement sont des gens compétents et de bonne foi et bien.
Pardon de faire une insiste, je trouve ça extrêmement intéressant que Ingrid Levasseur ne sache pas comment ça fonctionne. Moi, j'avoue, à ma très grande honte, que je l'ai découvert en lisant le journal ce matin.
Mais oui, mais parce que c'est le problème, c'est que dès le départ, on a un processus qui est un processus évolutif, peu transparent. Alors certes, il y avait l'urgence, mais l'urgence n'explique pas tout. Ça va être en fait des conférences qui vont se faire très largement, parallèlement aux débats qui se sont tenus localement ou par des différentes institutions comme l'assistance publique à Paris, admettons. On va leur donner quelques éléments qui sont sortis des débats locaux, mais quelques éléments simplement. Donc ils vont avoir, ça ne va pas être une montée en généralité, ça va être quelque chose de parallèle. Et puis après, on ne sait pas bien, on va leur demander de sélectionner une série de thèmes sur lesquels ils vont travailler, sur lesquels ils vont faire des propositions. Mais il va y en avoir 18.
C'est ça.
multiplié par chacun des nombres de thèmes, multiplié par le nombre de débats locaux ou institutionnels qui ont eu lieu, on va se retrouver avec une montagne. Qu'est-ce qu'on va en faire ?
J'allais dire, c'est un job à plein temps. C'est pas du tout de mauvais esprit. C'est un vrai job à plein temps. Enfin, ça me paraît être une énorme usine à gaz. Pardon de le dire comme ça, mais non.
Pour l'instant, c'est une énorme usine à gaz.
Une question pour vous, Ingrid Levavasseur de Luc sur l'appli de France Inter. Faudrait-il, souhaiteriez-vous instaurer une sorte de grand débat permanent afin d'écouter les citoyens ? Est-ce que ça fait partie d'une piste qui peut être envisageable et qui vous semblerait adéquate ?
Je pense que, et je l'ai déjà soumis il y a quelques temps, ce serait intéressant d'avoir la possibilité d'intégrer des citoyens. Voilà, un peu comme dans les procès avec un jury, d'intégrer des citoyens et qu'ils aient un droit de parole et un droit de regard sur ce qui se passe. Ça pourrait être un grand débat permanent, oui, ce serait intéressant dans le sens où ça serait un peu comme une plateforme tournante avec des citoyens différents, de différents bords, différentes classes sociales, différents milieux. Et ce serait vraiment intéressant puisque chacun aurait la possibilité de voir ce qui se passe et de dire ce qu'il pense. Et ça pourrait être une sorte de grand débat permanent.
Et on leur soumet quoi ? On leur soumet ce qui va être débattu à l'Assemblée, par exemple,
amont sur l'étude des textes de loi, sur les décisions à prendre, sur les budgets, voilà, ce serait vraiment intéressant.
Alors moi, si je peux me permettre,
allez-y, Saint-Omer, bien sûr.
Je suis d'accord avec vous, mais à une condition, c'est que ça a une incidence réelle sur les politiques menées. Regardez à un niveau local les conseils de quartier. Ils ont tendance aujourd'hui à s'épuiser. Au début, il y a quelques années, quand ils ont été créés, ça a permis justement de nouer un dialogue. Mais si au bout du dialogue, on a toujours les mêmes qui décident et qui ne tiennent pas forcément compte du débat, alors ça s'épuise. Et alors on peut même ressortir plus en défiance par rapport au système politique que l'on y était entré. Donc, associer des citoyens ordinaires, je pense que le tirage au sort serait la meilleure des solutions pour le permettre, au fonctionnement plus normal des institutions, oui, mais à condition que ça ait des effets, qu'il y ait un certain pouvoir, une certaine coproduction, pouvoir de veto, pouvoir de proposition.
Peut-être une proposition qui vient de Philippe. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Tout d'abord, grand merci à l'équipe de France Inter. Donc Philippe du Jura. Donc là, je viens d'entendre des réflexions, que ce soit d'Ingrid ou de monsieur, je ne sais plus son nom.
Yves Saint-Omer, il vous écoute.
Oui, mais c'est tout à fait ça. Il faut absolument, donc monsieur a tout à fait raison, donner un pouvoir à ce qui s'est passé, et c'est grâce aux gilets jaunes, il faut le dire. Une remise en cause profonde, c'est la vraie crise. Elle est plus que politique, elle est carrément philosophique, là. Elle est plus qu'économique, elle est écologique, on le sait aussi. Donc il faut redonner un pouvoir au peuple, il faut pas en avoir peur. Donc oui, les jurys populaires, ça marche. Oui, ça marche. Et donc redonner de la place par les procédures de tirage au sort qui existent depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est ancré dans l'histoire de la démocratie depuis la Grèce. Et il y a eu des tas d'exemples qui se sont faits avec ça. Donc il faut redonner ce pouvoir sans avoir peur du peuple. Les gens ne sont pas des idiots. Les gilets jaunes l'ont montré. Ils sont capables de dire beaucoup de choses. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. C'est qu'il faut qu'il y ait une incidence sur les termes de pouvoir. Il n'y a pas que la représentativité. Ce qui est très bien. C'est très bien qu'il y ait une démocratie représentative. Mais elle doit être épaulée par une vraie représentation du peuple légitime. L'efficacité politique, c'est une chose, mais la légitimité, c'est la chose la plus importante.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe, ce qui va dans le sens de ce que vous disiez, effectivement, Yves Saint-Omer.
Oui, mais je pense que on a un système dont les fondements ont été posés un peu avant la Révolution française, dont le fonctionnement institutionnel précis s'est déployé après la Deuxième Guerre mondiale, dans la deuxième moitié du XXe siècle. La société, elle a évolué énormément. La place de la France dans le monde, elle a évolué énormément. L'éducation, elle a été transformée. Les réseaux sociaux, les familles, l'école ne sont plus les mêmes. Il faut que le système politique, la politique, s'adapte aussi à l'évolution de la société et inventer d'autres choses. Et d'ailleurs, dans l'histoire passée, là, les démocraties ne se sont jamais figées. Quand elles se sont figées institutionnellement, elles sont entrées en crise. Donc je crois que les choses sont devant nous, et en particulier pour faire face à ces défis sociaux, économiques, écologiques qui ont été évoqués, qui sont énormes. On ne peut pas les faire sans le peuple.
Alors justement, cette question d'Alice sur l'appli de France Inter, l'environnement est-il finalement le grand perdant du grand débat, Ingrid Levavasseur?
Non, absolument pas. Au contraire, je pense que tout est lié. Et au départ, on nous a un peu justement assimilé à des contre...
Ça commence sur la taxe carbone et sur une voilà, forme d'écologie punitive, en fait, en tout cas, vécue comme
ça. Ça a commencé comme ça, mais c'est pas tout à fait la réalité. On a été en colère d'être une fois de plus taxé pour être taxé, alors qu'on peut faire de l'écologie, on peut faire de l'écologie sociale, à mes yeux. On peut vraiment œuvrer sur plusieurs points à la fois, et notamment en passant par l'écologie, plus de justice sociale. On peut travailler la main dans la main tous ensemble.
Est-ce que ça veut dire que vous manifestez, par exemple, la grande manif du 15 mars, vous manifestez...
Du 16 mars, pardon.
Oui,
sur la manifestation contre le réchauffement climatique le 16 mars.
Est-ce que vous manifestez toujours en gilet jaune? Et quand je dis vous, pardon de vous mettre comme une espèce de symbole, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'il faut l'enlever, en fait, désormais, pour passer à autre chose? Ça n'empêche pas de descendre dans la rue s'il le faut. Est-ce que vous l'enlevez pour passer à autre chose, à une autre phase? Ou au contraire, pas du tout, il faut le garder sur les épaules précisément, parce que le garant de la suite, c'est aussi ce gilet fluo?
Moi, je pense que peu importe le vêtement, finalement, c'est les convictions qui font foi. Et pour ma part, je le porte plus, et ce depuis quelques semaines. Je le porte plus, mais je l'ai toujours dans mon cœur, et peu importe, j'ai toujours les mêmes convictions qu'au départ, les mêmes envies qu'au départ. Rien n'a changé. Je pense que la frustration est telle qu'au jour d'aujourd'hui, on a envie que ça change, et peu importe le vêtement, l'habit ne fait pas le moine. Voilà.
Alors, je ne vais pas vous mettre dans une situation difficile, on en plaisantait quasiment, vous et moi, tout à l'heure, avant l'antenne, mais nous, on s'est déjà fait engueuler parce que vous étiez là, notamment sur mon fil Twitter, donc j'imagine que vous, c'est très très quotidien. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez des gilets jaunes qui sont toujours en gilet, qui manifestent toujours le samedi, est-ce que vous leur dites pourquoi pas? Ou est-ce que vous avez envie de leur dire, est-ce que vraiment c'est toujours utile d'être là le samedi? Quel genre de dialogue vous pouvez avoir avec ceux qui sont encore en manifestation le samedi, Ingrid Levavasseur?
J'essaie de dialoguer un maximum, essayer de comprendre et de me faire comprendre. Moi, je suis toujours convaincue que les revendications des uns et des autres sont issues de réelles souffrances, et chacun les manifeste à sa façon. Moi, je suis plus pour des manifestations déclarées. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, l'objectif, c'est d'échanger, de fédérer, d'apaiser aussi, parce que beaucoup souffrent, et ce que je peux comprendre. Mais voilà, j'échange surtout, je communique.
Yves Saint-Omer, cette question de Marie-Ange sur franceinter.fr, ce sont les grandes villes les plus privilégiées, donc les bobos qui ont répondu au grand débat. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie, surtout vous qui étiez à Paris, par exemple?
À Paris, il est clair que ce sont plutôt des personnes plus installées dans la société qui se sont mobilisées davantage, même si la ville de Paris a essayé, à travers un bus itinérant, d'aller dans des quartiers où les gens participent moins à cela. Pour l'instant, il faut bien le dire, on n'a pas de chiffres nationaux qui soient fiables et qui pourraient nous permettre de donner des conclusions définitives. Il est probable qu'il y ait des gros contrastes d'un endroit à l'autre. Il est probable aussi qu'il y ait une participation disproportionnée, disons, des personnes de classe moyenne supérieure, alors que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était l'inverse. Il y avait de tout, mais il y avait aussi tout de même énormément d'ouvriers, d'employés, de personnes indépendantes relativement modestes, et de la France provinciale, périphérique entre guillemets.
Et comment on fait pour en tenir compte, du coup, quand on le sait, effectivement, vous finirez par avoir les chiffres? Alors effectivement, les choses qui ne sont pas encore affinées, je le disais tout à l'heure, disent que les contributions en ligne étaient plutôt les régions les plus riches, les contributions physiques, c'est-à-dire les organisations de grands débats étaient plutôt dans les régions rurales. Est-ce qu'on arrive à faire la part des choses, en fait, pour en tirer aussi les conclusions?
Mais encore, cela n'est-il que géographique. Ensuite, il faut voir à la fois dans les régions, dans les villes les plus riches, et puis dans les régions rurales, qui, parmi les habitants, participent. Ben, de ce point de vue-là, les conférences régionales, les assemblées citoyennes régionales qui vont se tenir, parce que justement, elles ont été tirées au sort sur une base, disons, de quotas qui permet d'avoir un échantillon représentatif de la population, un peu comme on l'a pour les sondages, vont contrebalancer les écarts. Et sans doute faudrait-il le faire également à l'échelle nationale si on voulait une véritable représentativité statistique du pays.
Ingrid Levavasseur, là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une vraie représentativité ou que l'un pousse l'autre et qu'un certain nombre de revendications d'origine qui ont été celles des Gilets jaunes à l'origine ont pu être étouffées en fait à l'ouverture du grand débat par, comme le disait Yves Saint-Omer, des gens qui étaient économiquement d'un niveau supérieur à ceux qui ont commencé sur les ronds-points?
Je suis pas tout à fait d'accord. Je vais être de bonne foi. Moi, j'ai assisté au grand débat de ma commune, 4100 habitants. Donc, c'est pas une très grande ville. C'est un débat qui a été fait entre citoyens et on a pu y voir toutes les catégories sociales, des gilets jaunes. Beaucoup de gilets jaunes qui étaient présents et on a parlé des revendications premières. On a bien dit que de toute façon c'était les besoins fondamentaux qui étaient prioritaires, qu'on avait besoin de manger avant de penser à toute autre chose, qu'on avait besoin de manger puis de s'habiller et que voilà, c'était ce qu'on mettait en premier. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti précisément.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Frédéric.
Bonsoir. Donc, je suis professeur d'allemand dans un collège dans les environs de Rouen. Et je ne suis pas certaine que les interlocuteurs soient les bons ce soir, mais je suis un petit peu en colère depuis quelques mois. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui sont oubliés, qui font un travail formidable depuis des années, ce sont les syndicats. Pour ma part, je ne me suis pas rendue au référendum, je ne me rends pas au débat, parce qu'il me semble que les syndicats font très bien leur travail. Donc est-ce que la voix qui est portée par les syndicats depuis des années va être entendue par le gouvernement?
Alors, ça, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai juste une question subsidiaire, Frédéric, sur la au moment de la naissance du Gilet jaune, c'est tous les corps intermédiaires en fait qui ont été rejetés, notamment les syndicats. Est-ce que comment vous l'avez vécu, vous? Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes allé sur les ronds-points pour dire aux gens, attendez, on est là, on existe, ce boulot, on le fait. Et comment ça a fonctionné ce dialogue entre vous?
Tout à fait. Par exemple, il y a eu un mouvement chez nous qui s'appelle les Stylos Rouges, que je ne connais pas très bien, que j'ai croisé très rapidement dans une manifestation devant un rectorat. Et ce sont des gens qui, me semble, ont oublié que les revendications qu'ils portent aujourd'hui et qu'ils semblent découvrir, elles sont portées par les syndicats depuis des années. Donc pour ma part, je ne me suis pas rendue sur les ronds-points, mais j'en fais part aux gens qui s'y rendent. Je trouve ça très triste de s'apercevoir qu'il y a un travail qui est fait par les syndicats. Les gens sont là pour ça. Le syndicalisme est assez attaqué en France pour qu'on le respecte un petit peu tout de même. Donc ma question c'est, est-ce que les revendications portées par les syndicats depuis des années vont être entendues dans ce contexte d'un débat citoyen? Cette espèce de fausse proximité avec les gens m'effraie un petit peu en fait.
Merci beaucoup Frédéric pour cette remarque. Ingrid Levavasseur, cette frustration des syndicats qui existe, alors c'est celle des partis, mais c'est encore une autre histoire. Et qui dit, attendez, mais nous, ce boulot, on le fait, près des gens, on y est. Est-ce qu'un rapprochement est possible, envisageable, ou pas du tout?
Moi, je pense que Frédéric n'a pas pu se rendre compte, puisqu'elle ne s'est pas rendue sur les ronds-points ni même sur les manifestations, mais les syndicats se rapprochent davantage et ils sont davantage acceptés, puisque sur la manifestation, notamment de samedi à Paris, il y avait des syndicats. Et je pense qu'il y a justement une fédération, entre guillemets, qui est en train de se créer entre les associations, les syndicats et les Gilets jaunes. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé et l'eau du bain avec.
Une dernière question, elle est pour vous deux, très rapidement. Je suis inquiet, nous dit cet internaute sur franceinter.fr, d'une forme générale de radicalisation des débats. Que pensez-vous de l'expression « on ne lâche rien » ? C'est Jaco qui nous dit ça. Quand on lâche rien, quand c'est tout ou rien, des fois c'est rien. Quoi. Est-ce que ce risque existe vraiment, Yves Saint-Omer d'abord ?
Évidemment, on est toujours obligé de lâcher quelque chose à la fin. Mais en même temps, une certaine radicalité, celle qu'ont manifesté les Gilets jaunes durant plusieurs mois, a aussi permis de faire évoluer énormément le débat public. Et donc, je crois qu'il faut être à la fois prêt à faire des compromis, certes, mais aussi à dire que c'est tout de même largement toute la société, tout le système politique qu'il faut changer.
Ingrid Levavasseur, rapidement, faut-il mettre de l'eau dans son vin, lâcher un peu de l'Est ou pas?
Je pense que dans les deux sens, il faut y travailler.
Ça marche dans les deux sens.
Voilà, il y a des consensus à faire. Peut-être un peu de communication, ce sera très bien. Je pense qu'il va falloir, de toute évidence, on ne pourra pas dire on ne lâche rien. Qu'est-ce que c'est aller jusqu'au bout? Les jusqu'au-boutistes, jusqu'où vont-ils aller? Voilà.
Et on n'a pas encore la réponse à cette question. Il n'est pas du tout évident qu'on l'ait rapidement. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. Comme d'habitude, au téléphone, on est très en retard. Portez-vous bien.